Chapitre 40. Deux jours plus tôt, Jane Hawke s'était mise en quête d'un lieu où elle pourrait mener en toute discrétion un interrogatoire musclé. Elle avait cherché un endroit isolé, dans lequel les cris ne risquaient pas d'attirer l'attention de passants éventuels. Le passé glorieux et l'avenir douteux de la Californie se mêlaient étroitement dans le quartier de friches industrielles qu'elle avait choisi. Les usines désaffectées sur lesquelles elle avait jeté son dévolu étaient protégées par un grillage tapissé de sachets en plastique de toutes les couleurs, de vieux journaux déchirés dessinant des nids de guêpes dans les mailles rouillées, de chiffons crasseux dont on aurait pu croire qu'ils avaient emmailloté quelques pharaons momifiés, de capotes usagées et de seringues brisées. Les parkings réservés autrefois aux ouvriers étaient désormais des no man's land rongés par les nids de poules. Des mauvaises herbes s'échappaient du réseau de fissures marbrant l'asphalte, comme autant de cheveux d'un monstre souterrain endormi. Le bâtiment qu'elle avait retenu découpait sa silhouette sombre dans le soleil du matin. Une structure de béton et de tôle ondulée, haute de plus de 10 mètres, étalée sur un hectare. Le quart supérieur de la façade, constitué d'une rangée d'ouvertures, peinait à laisser passer la lumière à cause de la crasse qui ternissait les carreaux. La grille d'entrée était sécurisée par un cadenas, dont Jane avait cisaillé l'anneau 2 jours plus tôt à l'aide d'une pince coupe-boulon. Abandonnant sur le siège passager un Randall Larkin endormi, les mouvements du mouchoir signalant sa respiration, elle écarta la barrière, franchit l'obstacle au volant de la Mercedes et redescendit fermer la grille derrière la voiture. Elle contourna le bâtiment, de sorte que la présence de l'auto ne puisse attirer l'attention depuis la rue. Faute d'électricité, elle ne pouvait pas ouvrir le volet mécanique destiné au camion de livraison. Mais à 20 mètres de là, s'écoulait ce que les habitants du sud de la Californie nomment pompeusement une rivière, à savoir un chenal conçu pour prévenir les risques d'inondation. Le lit bétonné était à sec la majeure partie de l'année, mais les pluies récentes l'avaient transformé en un torrent impétueux. Le grondement des eaux lui parvint dès qu'elle ouvrit sa portière, lui donnant le sentiment que toute la crasse du monde se laissait emporter à la veille de l'apocalypse, entraînant avec elle les dernières traces d'innocence. Elle sortit une torche de son sac et entra à l'intérieur du bâtiment par la petite porte qui s'ouvrait à côté du volet mécanique. Elle avança dans un espace caverneux dont la lumière diffuse, pénétrant à travers les impostes poussiéreuses, éclairait péniblement les charpentes métalliques. Les anciens propriétaires de l'usine, chassés par la faillite ou le désœuvrement, avaient abandonné les lieux sans se soucier de successeurs éventuels qui ne s'étaient jamais matérialisés. Il y avait là une quantité impressionnante de déchets de toutes sortes. Des dizaines de tonneaux vides, des caisses en bois, des planches de contreplaqué biscornues, des rouleaux de fil de fer emmêlés, des canettes de soda écrasées, des bouteilles de bière explosées, des documents éparpillés. Lors de sa précédente visite, Jane avait roulé 2 barils dont elle avait fait une table en installant une planche de contreplaqué à cheval sur les 2. Elle y avait posé une lampe tempête et sa recharge de gaz, achetée dans un magasin de sport. Elle plaça la torche à côté de la lampe et enfila des gants noirs aux coutures argentées, qui lui avaient déjà servi la semaine précédente. Puis elle alluma la mèche de la lampe, qui émit une lumière blanche, dessinant un cercle spectral dans la pénombre. Sur la table de fortune étaient également posées 4 bouteilles d'eau, ainsi que 4 gamelles pour chiens en plastique. Elle avait dégagé l'espace tout autour de la table lors de sa venue, à l'exception de 2 chaises pliantes en aluminium qu'elle s'était procurées chez un brocanteur. À côté de la porte par laquelle elle était entrée se trouvait un chariot plat long de 2 mètres, acheté au même endroit, qu'elle poussa jusqu'à la voiture. Randall Larkin marmonna des paroles inintelligibles sous son mouchoir lorsqu'elle ouvrit sa portière. Elle le repoussa en voyant qu'il menaçait de tomber par terre et lui entrava les poignets et les chevilles à l'aide d'autobloquants en nylon. Puis elle le saisit sous les aisselles, le tira hors de l'habitacle et l'allongea tant bien que mal sur le chariot. Le mouchoir était tombé pendant la manœuvre, et elle le reposa sur le nez de son prisonnier, après y avoir vaporisé une nouvelle dose de chloroforme. Elle poussa le chariot jusqu'à l'entrée de l'usine abandonnée. Au moment d'en franchir le seuil, elle s'arrêta, sortit de la poche de son jean le médaillon de stéatite et l'examina longuement à la lumière crue du matin. De l'autre côté du grillage, la rivière faisait entendre son discours volubile, mais Jane restait sourde à sa rumeur, hypnotisée par le médaillon dans lequel elle ne voyait plus que le visage de son fils Travis, portrait craché de son père en qui elle avait fondé tous ses espoirs. Elle finit par rempocher le médaillon brisé, poussa à l'intérieur du bâtiment le chariot sur lequel était allongé l'avocat et referma la porte.